Bonjour, shalom, assalam alaikum. Mercredi 13 décembre 2023, nous vous saluons, vous toutes et vous tous, nos chers et bienveillants auditeurs, auditrices du Club La Presse. Vous êtes branchés sur Canal FM à Lomé, ses environs, ou sur Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix, la Voix del Plateau à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokoré, Radio Sama FM à Baga Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Courtoisia d'Apan ou encore dans le monde entier par les radios numériques, Radio Le Bénin et Bénin Radio. Il y a également l'application digitale Canal FM. Je n'oublie pas la chaîne YouTube sur laquelle vous nous écoutez, vous nous regardez. Les techniciens qui nous accompagnent au jour le jour, Victor Bekoku Michel Tomega, qui va être rejoint incessamment par Jérôme Kodjo Akucha. Avant toute chose, visitons l'écrivain américain Mark Twain qui a écrit que la vérité est la chose la plus précieuse que nous ayons, économisons-la. Encore une fois, la vérité est la chose la plus précieuse que nous ayons, économisons-la. Cette vérité ou cette chose précieuse, ça peut être la santé, n'est-ce pas, Gadiel Gamli Tchonyadi?
Oui, la santé, on est encore là ce matin pour parler de la vérité en matière de santé. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Merci, la vérité, la chose précieuse, ça peut également l'information vraie, n'est-ce pas, Sylvestre Kokou Beni?
C'était ça.
N'est-ce pas?
Oui, je crois que c'est pas à chercher le midi à 14h.
Et même si ça dérange un peu, tant que l'information est vraie, nous y allons.
Voilà, il le faut.
Et c'est pas Abbas Jalou, Abbas Isaka qui nous démentirait. Bonjour.
Bonjour Jalou, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM. Je pense que cette vérité, quand on l'a, il faut la conserver.
Il faut la conserver.
Oui.
Et jalousement.
Jalousement, la conserver jalousement et la divulguer au temps opportun.
Oui, sauf que quand certaines personnes, dont des journalistes, disent cette information vraie, ça peut leur coûter la vie. Sylvestre Kokou Beni et puis Abbas Isaka, ça fait 25 ans que notre confrère Norbert Zongo, au Burkina Faso, recherchait la vérité, l'information autour des circonstances du chauffeur de François Compaoré, le frère de l'ancien président du Burkina Faso. Il a disparu. Ça fait 25 ans que Norbert Zongo a disparu dans ces conditions. Les allégations sont là. Il n'y a même pas encore une justice pour qu'on trouve dans quelles circonstances Norbert est mort, qui a commandité, qui a exécuté.
Oui, bon, en fait, pour les circonstances, on connaît un peu les circonstances, puisqu'ils ont été, leur véhicule a été brûlé, ils ont été calcinés et tout, avec certains donc, de ses amis qui étaient avec lui. Oui, au niveau donc, des enquêtes, c'est vrai que cela n'a pas tant évolué, mais ça tourne autour donc, de François Compaoré, qui est donc, le petit frère de l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Ça fait des années que la justice burkinabé demande à ce qu'il soit extradé au Burkina Faso afin qu'il puisse contribuer à avoir toute la vérité sur... cette affaire-là, oui, entre-temps, la France avait dit oui, puisque actuellement il est sur le territoire français. La France avait dit oui, mais bon, c'est quelque peu rétracté parce que disant que les conditions ne sont pas réunies afin qu'on puisse avoir un procès équitable et surtout pour sa garantie. On espère que tôt ou tard, cette vérité jaillira.
25 ans déjà qu'il nous a quittés dans des circonstances atroces. Nous gardons l'espoir à la fois que la vérité se fera autour de sa mort. Et au-delà de Norbert Zongo, nous pensons à tous nos confrères, consoeurs qui sont tombés sur les champs d'honneur. Ouais. Ceux qui sont tombés comme Jean-Hélène en Côte d'Ivoire, comme nos consoeurs et confrères au Mali, ouais, comme les journalistes qui meurent actuellement en Ukraine, ouais, et dans la bande de Gaza, ouais, un peu partout, mais également, Abbas Isaka, nous pensons à nos confrères qui ont dû fuir leur pays, ouais, pour diverses raisons liées à leur travail. Naturellement, Haïti,
Ferdinand
Haïté, Carlos Ketou, Isidore Kouonou du Togo, d'ailleurs, tous les confrères journalistes du Togo ou d'ailleurs qui ont dû fuir leur maison ou bien qui sont en prison, nous pensons à tout ça.
Ouais, toutes nos pensées à tous ces journalistes, à tous ces confrères qui souffrent de ces gens de situation par rapport à leur profession, parce que aujourd'hui ils sont loin de leur famille, ce n'est pas supportable. Et des choses comme ça, il faudrait qu'on puisse les éviter dans l'avenir. Donc tous ceux-là qui sont morts sur le champ de bataille lors de leur profession, dans les îles de leur profession, ceux-là aussi qui sont actuellement, qui sont en prison dans de nombreux pays, où on parle de l'Algérie, il y a également
le Maroc,
RDC, je crois. Donc tous ceux-là, il faudrait que nous pensions aller vers eux et que les autorités puissent comprendre que faire l'exercice du journalisme, ce n'est pas un ennemi, c'est quelqu'un qui donne des informations, c'est quelqu'un qui fouille avant de donner des informations, et un journaliste n'est pas un criminel pour qu'on puisse le tuer ou bien qu'on puisse l'emprisonner.
Merci, mais nous ne perdons pas de vue que ce qui fait la cuirasse du journaliste, c'est l'information vraie, l'information avérée, l'information recoupée au maximum pour que le journaliste ne tombe pas dans le piège de la précipitation du sensationnel qui l'amènerait à annoncer des choses qu'il n'aura pas au préalable bien recoupé. Mais la vérité est la chose la plus précieuse, c'est également la justice. Hier, nous avons appris que le président de la Cour suprême a offert un déjeuner de presse avec des déclarations, il me semble, vraiment d'une certaine portée. Nous allons revenir là-dessus. Mais la justice formelle, mais la justice que les autorités déplacent jusqu'au contact des populations, ce concept de la maison de justice, vous rappelez, il y a quelques semaines, nous avons reçu les dirigeants de la maison de justice de Baguida. Aujourd'hui, c'est le tour d'Aguenivé d'être à nos plateaux. Maître Agbessinou Yaovi Dodji, bonjour.
Bonjour.
Le micro, s'il vous plaît. Vous
bonjour.
Êtes le médiateur conciliateur de la maison de justice d'Aguenivé.
C'est vrai.
Merci d'être à nos côtés. Vous faites accompagner par votre assistant, Monsieur Esohino Manani, si je n'écorche pas le nom et le prénom.
Exact.
Merci. Eh bien, commençons par vous. Nous connaissons la justice classique, avec le tribunal de première instance, la cour d'appel jusqu'à la cour suprême. Mais la maison de justice, c'est vrai que je le disais, nous en avons parlé il y a quelques semaines, mais Maître Agbessinou, vous qui êtes médiateur, conciliateur de la maison de justice à Gwenyevé, c'est quoi justement l'institution ou bien le concept maison de justice?
D'accord. Je voudrais d'abord présenter la maison de justice d'Aguenivé. Mm-hmm. Elle est située dans la préfecture d'Aguenivé.
Comme son nom l'indique.
Oui. Et puis, est créée par arrêté du ministre de la Justice. Mm-hmm. Arrêté du 050 du 8 mai 2018. Mm-hmm. Suite à cette création, le décret de créer qui institue les maisons de justice au Togo,
oui.
Décret présidentiel, bien sûr, numéro 034 du 27 février 2018, oui. Toujours de la même année. Alors, la maison de justice est située sur la nationale numéro 1, Lomé-Sévier. Juste arrivé au niveau du terrain de football d'Aguenivé, à l'est, disons, une école,
à l'ouest,
ouais. Justement à l'ouest, l'école primaire publique centrale.
Il y a une école qui jouxte
directement
au terrain JCA
voilà. Justement, et derrière le terrain, la maison de justice, en face de vous, vous allez voir le drapeau togolais flotter au-dessus d'une villa.
Mm-hmm.
C'est la maison de justice d'Aguenivé, ça.
Merci. Ceux voilà. qui nous écoutent, qui connaissent la localité, peuvent aussi diriger déjà et visiter cette maison de justice. Mais ma question demeure, je parlais tantôt de la justice classique, telle que nous la connaissons, tribunal de première instance, cour d'appel et cour suprême. Alors, à côté de ça, là, maintenant, la maison de justice, qui existe, créé par décret présidentiel, qu'est-ce que c'est par nature?
Voilà. Le besoin se fait sentir parce que la justice classique n'est pas accessible à tout le monde.
Mm-hmm.
Et il y a eu ce besoin-là que le gouvernant ont demandé, ont réfléchi à ce que qu'on puisse créer les maisons de justice qui seraient proches, de justice de proximité des populations et résoudre facilement les différends en médiation et conciliation.
Oui.
C'est ça. Donc, c'est une justice, je disais tout tantôt, que c'est une justice de proximité, d'abord facile, accessible à tout le monde. Et on a pensé que la justice classique est difficile à accéder à tout le monde.
Oui.
Parce que là, c'est un peu cher, le déplacement aussi, et l'éloignement de tout ça. L'éloignement de tout, de la justice classique, des populations. Il a fallu créer alors la maison de justice auprès des populations.
Donc, maison de justice plus proche des populations,
oui.
plus accessible et à un coût qu'est-ce qui avoisine le franc
d'ailleurs gratuit.
Gratuit.
Gratuit. Zéro franc.
Alors, justement, quel est le rôle de la maison de justice,
voilà.
que ce soit d'Agouagnevé, de Bakida ou bien toutes celles qui existent un peu partout autour?
C'est ça. La maison de justice est créée d'abord. Notre rôle, c'est d'abord accueillir les usagers et leur donner des informations. Et puis, donner des informations aux populations et faire des traitements de judiciaires de proximité. C'est notre rôle, ça.
Oui.
Ensuite, des litiges de vie, de la vie quotidienne. Régler les petits problèmes de la vie quotidienne.
Oui.
Donc, je me résume, c'est-à-dire accueillir, donner des informations juridiques aux populations. Oui, et puis traiter les petits litiges entre les parties.
Merci. Voilà. Alors, à la justice classique, on parlera de président du tribunal.
Oui.
Mais ici, au niveau de la maison de justice, nous parlons plutôt de médiateur-conciliateur que
ça.
Vous êtes.
Oui.
Alors, comment est composé votre personnel, sinon votre cabinet, votre équipe?
Voilà. Les maisons de justice sont composées de... Le personnel est composé de quatre employés. Il y a le médiateur, l'animateur juriste, et la secrétaire de direction et ensuite l'agent d'appui. Voilà. Et chacun a son rôle.
Alors justement, j'en viens à l'assistant jury, c'est ça? L'assistant au médiateur conciliateur, monsieur Essohinou Manani. Voulez-vous nous dire en quoi consiste votre rôle exactement aux côtés du médiateur conciliateur?
Merci, monsieur Sass. Le rôle de l'animateur juriste ou bien de l'assistant du médiateur, c'est de recevoir les populations, les usagers. C'est comme ça que nous les appelons dans les maisons de justice, parce que devant les tribunaux, on les appelle les justiciables. Mais à la maison de justice, sont appelés les usagers. Alors, nous avons pour eux de les recevoir et de leur donner des informations juridiques, des informations administratives, des informations dont ils ont besoin dans certains domaines particuliers. Je prends l'exemple, s'ils ont besoin d'avoir des informations sur l'établissement de certaines pièces administratives, par exemple l'établissement du passeport, du certificat de nationalité, certificat de naissance, etc. Et ils viennent pour recevoir leurs informations là-dessus. Alors, nous leur parlons aussi du droit en général. Ici, vous savez que la population, ce n'est pas tout le monde qui est allé à l'école. Et même si on est allé à l'école, ce n'est pas tout le monde qui a la connaissance juridique. Alors, vous voyez, l'ignorance, c'est une maladie. Et ça fait qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'opportunités que des gens perdent parce qu'ils ne connaissent pas le droit, ils ne connaissent pas comment est-ce que ça se passe. Donc, quand ils viennent, tout ce qui concerne le droit, nous allons leur donner des informations là-dessus. Et particulièrement sur le plan judiciaire. Alors, si quelqu'un a besoin d'entamer une procédure judiciaire, ils viennent pour avoir les informations là-dessus. Donc, toutes les informations de la procédure judiciaire au tribunal, comment ça se passe, ils viennent et nous leur donnons les informations là-dessus.
Donc, si c'est les informations que vous donnez au public. Mais il se peut, et je présume que c'est vrai, les populations ont également leurs préoccupations qu'elles viennent vous exprimer. Alors, quels sont l'essentiel des requêtes que vous recevez de la part des populations?
Très bien, merci beaucoup.
Comme vous l'appelez.
Alors, il y a deux catégories de requêtes. Les requêtes peuvent porter sur l'assistance juridique et les requêtes peuvent porter sur la médiation conciliation. L'assistance juridique, je pense, c'est ce que je viens d'expliquer. Maintenant, pour les médiations conciliation, c'est le règlement des litiges. Le litige que l'on pourrait porter devant les tribunaux. Et compte tenu du fait que le médiateur l'a déjà dit, que la population n'a pas les moyens pour se présenter devant les tribunaux, quand ils viennent, nous les aidons à traiter ces dossiers-là.
Je prends l'exemple. C'est les litiges, par exemple.
De la vie courante.
Plus concrètement encore.
Je prends un exemple. Je prends un exemple. Vous avez un problème avec votre femme.
Ou bien c'est elle qui a problème avec vous.
Alors vous allez vous présenter à la maison de justice. Peut-être que votre femme a refusé de vous préparer à manger. Ou bien votre femme a refusé de partager le lit avec vous. Vous allez venir avec ce problème à la maison de justice. Et généralement, vous avez un problème avec
vos voisins, peut-être.
Votre voisin, votre voisinage. Le problème, par exemple, garde d'enfants, le problème avec entretien d'enfants, le refus de grossesse, le refus d'entretien de grossesse, etc., etc. Vous pouvez vous présenter. C'est-à-dire que sur le plan civil, tous les problèmes qu'il peut avoir. Et sur le plan social, problème entre employeur et employé, et vous pouvez vous présenter à la maison de justice.
Si j'ai un litige aussi également, est-ce que je peux venir à vous?
Effectivement, vous pouvez venir à nous. Alors, et on va vous aider à résoudre le problème. Ici, nous ne jugeons pas. C'est la médiation. Nous vous aidons seulement à résoudre le problème. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc... c'est parce que vous n'avez pas les moyens pour aller devant le tribunal que vous venez nous voir. Et nous mettons entre vous et pour faciliter le dialogue.
Merci. Alors justement, monsieur le médiateur conciliateur, concrètement, si nous venons vous exposer ces requêtes-là, comment est-ce que vous les traitez pour nous et à notre satisfaction?
Bien. Et lorsque les usagers arrivent, les deux parties se présentent, on les reçoit. Et puis, d'abord, la question est posée au demandeur, celui qui a fait la demande. C'est lui qui prend la parole d'abord, succinctement, précis, dit exactement ce qui se passe. Il ne faut pas... Si vous leur laissez le temps, ils vont raconter beaucoup de choses. Donc, allons à l'essentiel. Il parle, et puis, après, on donne ce qu'il a demandé, la demande qu'il a formulée, il dit... Et puis après, quand il aura fini, on remet la parole au défendeur, qui la prend aussi.
Mise en cause.
Qui la prend aussi. Et dans le calme, nous facilitons seulement le dialogue qui était rompu depuis la maison. Maintenant, quand ils sont arrivés à notre niveau, on va renouer ce dialogue-là. On facilite le dialogue. Et entre elles-mêmes, les parties elles-mêmes, elles parlent, elles discutent. Sous notre regard, bien sûr, nous leur posons de petites questions d'abord, et ensuite, elles-mêmes trouvent la solution. Nous leur disons précisément que c'est vous-même qui allez trouver la solution à ce problème. Ce n'est pas nous. Au cas où ils n'arrivent pas toujours à concilier, à s'entendre, c'est en ce moment que nous intervenons par la conciliation en proposant ce qui doit satisfaire les deux parties. Et c'est ça qui est la conciliation.
Et même si à ce niveau-là, à ce niveau, même si au deuxième niveau chez vous, ils n'arrivent pas toujours à s'entendre.
Ils n'arrivent pas toujours à s'entendre. On fait beaucoup d'efforts quand même pour qu'ils arrivent à s'entendre. Mais s'ils n'arrivent pas, alors on les renvoie devant les tribunaux. Voilà.
Mais entre-temps, est-ce que vous vous faites aider ou bien vous appuyez par les chefs quartiers, les chefs de village, les chefs cantons?
Oui, dans ce cas-là. C'est-à-dire que... Quand les usagers arrivent, un plaignant qui vient, on lui donne une fiche d'invitation pour l'autre partie. C'est-à-dire le demandeur qui vient, il prend l'invitation, ce n'est pas une convocation. Nous délivrons une invitation qu'il remet à l'autre. Et si l'autre refuse de venir, bon, on refait encore et on dit au demandeur de passer par le chef quartier pour remettre l'invitation à l'autre. Parfois, l'autre partie refuse de venir, mais alors, on passe par le chef quartier ou bien le chef canton pour remettre l'invitation à l'autre partie.
Oui, et finalement, par votre assistant.
Oui, effectivement, c'est ce que le médiateur vient de dire, mais pour ajouter, pour compléter, par rapport au chef traditionnel, je pense que les tests sont prévus qu'on puisse faire recours aux personnes ressources et dont l'autorité peut nous aider à résoudre les problèmes. Donc, l'exemple des chefs traditionnels, il peut avoir un sujet et de, qui est peut-être d'ordre coutumier. Il y a la, le droit dedans, il y a la coutume qui s'est mélangée. Et on a besoin parfois de, du chef traditionnel. On l'invite à se présenter, à venir nous aider à, comment l'appelle-t-on, dans, dans nos audiences dans, que nous tenons. Et il vient, il donne son apport. Et cela contribue à résoudre le problème.
Merci, sujet intéressant. On aurait pu en parler des heures, pourquoi pas des jours. Mais on fait un rapide tour de table avec les confrères, commentaires, questions sur ce que nous venons d'écouter sur la maison de justice. Sylvestre Béni.
Oui, juste une question. C'est depuis leur installation. Oui. Est-ce qu'ils peuvent donc estimer le nombre de conciliations réussies jusqu'à présent et... Voilà.
Merci, c'est noté. Abbas Issaka ?
Oui, je voulais savoir, est-ce que les conciliations concernent seulement le problème de voisinage et les problèmes familiaux, mm-hmm. ou bien ça s'étend même jusqu'au problème foncier, au litige mm-hmm. foncier
parce que ça, il a déjà dit. Merci.
Gadiel ? Oui, c'est ce que moi je voulais dire. S'ils sont jusqu'au problème foncier, par exemple, c'est que dans nos communautés, les premiers problèmes.
C'est ce qui nous empoisonne le plus la vie. Fait. Monsieur le médiateur, conciliateur, la question du foncier vous revient encore.
Beaucoup, même, sincèrement, on soit ces requêtes-là. Et nous arrivons à régler pacifiquement ces problèmes. Jusqu'à, je dirais que de janvier 2023 à ce jour, nous avons plus de 1400. 98% réussi.
Sur le foncier.
Sur le foncier. L'ensemble.
L'ensemble.
Oui, oui. L'ensemble. Mais les fonciers, ça réussit souvent. Souvent, ça réussit. La conciliation aboutit.
Alors, les fonciers que vous traitez, c'est entre les membres de la famille ou bien entre vendeurs et acquéreurs?
Il y a souvent vendeurs et acquéreurs. Et parfois même les héritiers. Mm-hmm. Voilà. Les héritiers qui se partagent un terrain. L'autre dit qu'il n'a pas reçu sa part. Il n'était pas au Togo avant le partage. Voilà. Il revient, il introduit la demande. Et puis, on arrive à résoudre. Et on lui remet sa part.
Merci. Sa part.
Souffrez comme... encore.
Oui.
Souffrez comme mettre 3 points de suspension. Tant plus que la maison de justice d'Aguenivé, monsieur le conciliateur, vous voulez nous repréciser votre localisation physique.
D'accord. Nous sommes situés derrière l'école primaire centrale, publique centrale, Gouignivé, le long de l'Ande Route, qui est l'école qui shoot directement au terrain, le grand terrain de football.
C'est la référence immanquable.
Vous venez derrière l'école, le long des rails.
Oui.
Il y a des vendeurs de bois tout le long des rails. Devant vous, vous levez la tête seulement un tout petit peu, vous verrez le drapeau togolais flotter au-dessus d'une villa. C'est bien situé.
J'espère qu'il n'y a pas de conflit entre vous et les vendeurs de bois.
Non,
il y aura conciliation.
Merci beaucoup. Et bien, si le sujet vous intéresse, vous pourrez entrer en ligne sous le coup de 12 heures en composant nos deux numéros, le 22, le 21, 33, 74 ou le 91, 36. 63, 75. Nous ne bloquons pas le médiateur conciliateur, mais nous l'invitons humblement à demeurer à nos côtés et à votre disposition pour vous satisfaire si vous en avez besoin. Pendant ce temps, Gadier, si tu es prêt, on prend la route le main à goût. On peut atterrir à Gounyogo.
Oui.
Très bien. Santé éducation nous fait revisiter l'hôpital Bethesda d'Agounyogo qui connaît une renaissance.
Oui, effectivement, ça, vous vous rappelez, vers la fin du mois de novembre, on a eu une information, on peut dire surprise, l'hôpital Bethesda d'Agounyogo qui est tombé dans l'oubli depuis des années. Et puis, comme ça, cet hôpital renaît avec une nouvelle, et cette nouvelle est liée à un appareil, le scanner.
Scanner dont nous parlons tant ici au Togo.
Voilà. Donc, le scanner atterrit dans cette formation sanitaire, dans une localité, on pourra dire, rurale. C'est un hôpital qui est inauguré depuis 1969. Donc,
69.
Assez vieux.
Je ne sais pas si Sylvestre était déjà né. Même pas.
Et qui a été un hôpital de référence dans la sous-région là-bas. Oui. Et ben, malheureusement, pour des difficultés, cet hôpital est tombé très bas. Mais actuellement, son propriétaire, qui est l'église évangélique presbytérienne du Togo, a une politique de renaissance au niveau de cet hôpital-là. Donc, dans cette parution, vous allez voir une interview que nous avons accordée au directeur de cet hôpital.
Non, c'est le directeur qui vous a accordé l'interview.
Bon, je veux dire, c'est le directeur qui nous a accordé l'interview, voilà. Oui. Et il parle un peu de ce qui se passe actuellement dans cet hôpital.
Oui.
Comment on est en train de mettre en œuvre un certain nombre de nouveaux services pour relever cet hôpital. Et puis, un article technique sur ce que c'est que le scanner. Vous savez, on parle très souvent du scanner, mais c'est quoi exactement? Pourquoi cet appareil est si important dans une formation sanitaire? Donc, c'est ça un peu ce que nous avons fait autour de cet article. Mais, vous savez ça, cet article aussi, pour nous, nous sommes à la fin de l'année 2023, une structure médiatique qui fait la promotion de la santé, pour nous, ce titre, l'hôpital Bethesda Renin, c'est aussi un espoir pour nous, pour tous les hôpitaux du Togo. Mm-hmm. Quand on parle de tous les hôpitaux, c'est secteur public et privé. Hein. L'année prochaine, le gouvernement va amorcer la politique de l'assurance maladie universelle. Mm-hmm. Mais les populations seront prises en charge où? C'est dans les hôpitaux. Mm-hmm. Mais actuellement, nos hôpitaux au Togo, bon, il y a toujours débat hein, par rapport à nos hôpitaux. Donc, c'est un espoir pour nous que dans la région de la Cara, qui est un scanner dans un hôpital, dans la région Savane, et je vois que des scanners tombent dans plusieurs localités du Togo pour que la prise en charge de la population soit
Merci.
Efficiente.
Article très intéressant qui porte sur la renaissance de l'hôpital Bethesda d'Agounyombo. Physiquement, c'est un hôpital qui est si à Agounyombo, au pied hein, de la montagne Agou, hein, quand vous allez vers Kwalimé. Hôpital inauguré depuis 1969, ça fait 54 ans, mais qui avait des problèmes et qui connaît une deuxième naissance, notamment avec le lancement de scanner depuis le 20 novembre 2023. Dans cette interview sur pratiquement deux pages, le directeur de l'hôpital, Dr Etiam Kofi Sohou, il évoque l'impact du scanner, de ce dispositif technologique de pointe dans l'amélioration des soins de santé dans la région, et la capacité de l'hôpital. Notamment, il nous parle des services et prestations qu'offre l'hôpital d'Agounyombo. Il nous parle longuement du scanner, à quoi sert un scanner et quel patient peut en avoir besoin, quel est le coût de prise en charge moyen et beaucoup d'autres choses. Tout ça, c'est aux pages 4 et 5 de santé et éducation. Gadiel, vous nous parlez d'une autre maladie qui nous endeuille, qui nous tue. C'est les problèmes de cœur, notamment les artères. Aujourd'hui, le zoom, c'est sur les artères bouchées qui peuvent causer beaucoup de maladies dont certaines peuvent être très mortelles.
Effectivement, ça, vous savez, vous êtes hypertendu, vous êtes diabétique, vous êtes en surpoids, bien obèse, il se pourrait que vous ayez des artères bouchées. Hein? Mm-hmm. Donc, il y a des signes quand on a des artères bouchées. Très souvent, ces personnes se souffrent très vite. Hein?
Oui.
Suite à un petit effort, vous allez voir que ces personnes se souffrent. Ou bien, des douleurs qui naissent comme ça au niveau de la jambe, au niveau de la poitrine, au niveau des mollets. Ou pour les hommes, vous êtes là et puis des hommes adultes, hein, et puis bon voilà, un jour on se dit que l'érection n'est plus ça, on se plaint de l'érection. Je dis l'homme se plaint de l'érection.
C'est l'homme ou bien quelqu'un d'autre?
Bon, les deux vont se plaindre de l'érection. Et ça, il se peut que ce soit une artère qui soit bouchée quelque part. Oui, donc, oui. Et dans cet article, nous revenons un peu sur les signes et les recettes naturelles, bien sûr, que nous aimons tant donner aux populations.
Eh bien, les signes, encore une fois, nous ne voulons pas nous faire peur, hein, mais certains signes qui peuvent alerter sur les artères bouchées, quand nous avons une angine de poitrine ou des douleurs au niveau du thorax, quand nous souffrons de d'essoufflement dans la respiration, quand nous connaissons des dysfonctionnements érectiles, des douleurs aux jambes et aux mollets, des plis sur l'oreille, faiblesse ou vertige, des palpitations, une indigestion, des nausées ou vomissements ou encore une transpiration excessive, ça peut nous alerter sur les artères bouchées. Mais dis, Gadiel, vous parlez également de calvitie masculine. Ouais. Alors, quand je me regarde, je regarde beaucoup de personnes autour de moi. Est-ce que la calvitie également peut être signe d'artère éventuellement bouchée, Gadiel?
Oui, c'est d'après les études, oui. La calvitie est un signe d'artère bouchée, mais on n'a pas dit c'est la seule cause. Hein.
Oui.
Ça peut être
Michel,
tu
écoutes derrière la vie.
Une des causes de la calvitie, voilà.
Merci. Encore une fois, c'est des signes qu'il faut observer.
Et il faut le dire, hein, quand on a ces signes, il faut aller à l'hôpital pour faire un diagnostic.
Oui.
C'est absolument important. Encore ce sont fois, des choses qu'on ne gère pas à la maison.
Pas des consultations dans son journal.
Non.
Merci, mais vous nous recommandez quand même quelques légumes et fruits. Aujourd'hui, vous nous parlez des aubergines qu'on appelle abicha ou bien abissan selon l'accent de chacun. Et les aubergines peuvent prévenir les caillots sanguins.
Effectivement, ça, vous savez, ce sont des légumes qui sont les moins consommés. Quand vous traversez le Togo, vous allez voir différentes sortes d'abicha ou bien de légumineuses. Mais la plupart du temps, les gens n'aiment pas. Hein. Or, c'est d'après plusieurs études, les aubergines sont très riches et qui contribuent vraiment à assainir les vaisseaux sanguins, à permettre une bonne circulation du sang, donc à assurer tout ce qui constitue la santé cardiovasculaire. Donc, consommons les aubergines abyssales, c'est absolument important. Vers le sud Togo, c'est la variété un peu blanche ou bien jaune. Quand vous allez dans le fond du Togo, vous allez voir d'autres gros, plus gros, jaunes, tout ça. Donc, c'est une richesse que nous avons dans notre pays, un peu partout dans le monde d'ailleurs. C'est à consommer et c'est très bon pour la santé.
Les aubergines peuvent améliorer la circulation sanguine, prévenir les caillots sanguins et renforcer notre immunité. Et tu connais un peu les akoso?
Oui.
Et tu sais le meilleur plat qu'une femme peut préparer à son mari?
Bon.
Il y a le horé.
Il y a le horé, voilà.
Beaucoup de choses. Il y a
le fonio.
Mais il y a toujours abyssin à côté. Je comprends maintenant pourquoi les femmes akoso prépare beaucoup d'aubergines à leur mari.
Et c'est un légume qui a ce côté aussi aphrodisiaque. Ah. Donc, il faut peut-être on va revenir là-dessus après.
Voilà. Donc, le service après-vente. Et maintenant, nous pouvons continuer. Mais avant de continuer sur des sujets assez délicats, je voudrais rappeler la pensée du jour. Quand l'écrivain américain Mark Twain a écrit que la vérité est la chose la plus précieuse que nous ayons, économisons-la. Alors, sur ce chapitre, Sylvestre Béni, ton journal La Manchette porte sur sa manchette un article qui nous fait revenir sur un sujet qui a défrayé la chronique ces derniers jours. C'est le sort de Monseigneur Philippe Fanoko Kpodjro. Ces images, ces vidéos qui ont circulé, Monseigneur Kpodjro dans un couloir d'hôtel, on l'aurait sorti de sa chambre d'hôtel. Après, on l'a vu également dans la rue, pratiquement couvert de neige. Il appelait au secours. Et ton journal La Manchette, tu te donnes le courage de revenir sur ce sujet avec ce titre. Supposée expulsion de Monseigneur Kpodjro, Marc Mondji, le Zorro. Sylvestre Béni.
Oui, je crois que il y avait quand même de l'émotion quand les Togolais ont vu ces vidéos où le prélat qui aura 94 ans l'an prochain demandait à ce que disait qu'il a été expulsé et tout. D'abord, il faut faire observer que en hiver, on n'expulse pas en hiver en Europe.
Mm-hmm. Encore que la Suède. Je me rappelle d'un auditeur Richard a appelé de Copenhague
oui.
Au Danemark. Quand nous traitions du sujet, il avait émis un démenti formel. Qui ne voit pas un pays comme la Suède expulser des gens en hiver.
Encore qu'en Suède, c'est un froid glacial, donc c'est impossible, surtout avec un prélat donc, de cet âge. D'abord, c'est impossible. D'abord, il faut dire que depuis que Monseigneur Bodio s'est installé donc, en Suède depuis 2021, après l'épisode donc, du Ghana, ils n'ont jamais expérimenté donc, le froid ou l'hiver en Suède.
Donc, depuis 2021, Monseigneur Bodio n'a jamais passé l'hiver en Suède.
À chaque approche donc, de l'hiver, ils reviennent en Afrique. Pour passer le temps. Donc, ils ont fait deux séjours d'abord au Bénin.
Mm-hmm.
Ils ont fait six mois entre-temps. La première, quand ils sont donc arrivés à Skotuholm, ils sont dans une commune qu'on appelle donc, la Solna.
Mm-hmm.
Donc, quand ils ont quitté avant l'hiver, ils sont...
Ajuste bien ta bouche au micro. Justement. Ils ont besoin de bien comprendre.
Justement.
Ça.
Donc, ils sont arrivés, ils ont passé donc d'abord six mois au Bénin.
Mm-hmm.
Et après, ils sont retournés donc en Suède. Ils sont donc pour le prochain hiver, ils sont encore revenus au Bénin. Ils ont fait deux séjours au Bénin de 6 mois et de 7 mois. Donc, ça fait 13 mois au total passé au Bénin.
Oui.
Après, donc, l'autre hiver, c'est-à-dire l'hiver 2022,
oui.
ils étaient encore au Bénin. Après, ils sont retournés. Maintenant, la troisième fois qu'ils sont revenus donc en Afrique, à l'approche de l'hiver, c'était au Burkina. Et au Burkina, ils ont fait 11 mois au Burkina. Avant donc de retourner.
Mm-hmm.
Mais selon nos informations, d'après les clauses, vous ne pouvez pas être sur le statut de réfugié et faire plus d'un an dans un pays.
Hors de votre pays d'accueil.
Hors du pays d'accueil. Or, ils ont déjà fait 11 mois au Burkina Faso. Donc, ils sont obligés de retourner
en Suède.
Et donc, c'est la première fois qu'ils sont obligés donc, de passer l'hiver. Donc, en Suède, parce qu'ils ayant déjà fait 11 mois au Burkina Faso,
oui.
Donc ils sont obligés de retourner pour ne pas passer le cap d'un an.
Mm-hmm.
Voyez-vous?
Oui.
Et c'est là où son assistant avait quand même filmé. Lorsque vous voyez bien donc la vidéo, vous verrez qu'il avait quelque chose en main. Bon, peut-être qu'ils allaient pour son séjour médical où il allait donc pour des visites médicales et tout ça. Donc il a pris la vidéo et on ne sait pas si c'est lui qui l'a balancé sur les réseaux sociaux, mais la vidéo se retrouve sur les réseaux sociaux.
Okay.
Voyez-vous.
Alors, et puis l'autre chose. Suite à cette vidéo, la DMK, la dynamique Monseigneur Bodio, se sentant interpellé, a dépêché une mission
justement
auprès de Monseigneur Bodio. Eh bien, parle-nous-en.
Justement. Donc la délégation est véritablement allée donc en Suède. Mais sauf que là où ils étaient enregistrés, c'est-à-dire Monseigneur Bodio et son assistant, la délégation ne les a pas vus là.
Mm-hmm.
Et là, ils se sont donc rabattus sur la commune, les premiers responsables de la commune, qui aussi ont dit oui, effectivement, ils sont revenus, mais ils ne savent plus là où ils sont.
Mm-hmm.
Donc, actuellement, la délégation n'a pas vu donc Monseigneur Bodio et son assistant. Entre-temps, quand ils sont revenus donc au Bénin, ils ont passé le temps qu'ils ont passé au Bénin. Au retour, il y a l'assistant qui a informé donc l'écosystème de la DMK que à leur retour, ils n'ont plus eu accès à leur appartement et qu'ils sont restés à l'hôtel pendant un mois. Et donc, bon, si vous prenez donc le journal ce matin, vous aurez donc les détails les informations financières.
C'est également important dont je voudrais que tu nous parles. Alors, quand la mission de la DMK s'est rendue en Suède, elle a contacté les autorités suédoises qui ont catégoriquement rejeté l'allégation que Monseigneur Bodio ait été expulsé.
Justement,
de son hôtel.
Et puis la délégation, les responsables donc de la commune ont demandé même à la délégation d'appeler du moins tous les services qui accueillent ces personnes-là. Donc on leur a donné des numéros d'appeler si effectivement. Parce que si une personne se retrouve donc peut-être comme un SDF, en hiver, on trouve toujours...
Un centre de domicile fixe.
Un centre de domicile fixe. En hiver, on trouve toujours, en Suède, on trouve toujours un lieu pour les héberger. Donc, ils leur ont donné les numéros d'appeler tous ces centres-là pour voir s'ils sont là. Mais ils ne sont pas là.
Ok. L'autre vérité, enfin, l'autre information que tu nous donnes, c'est que la dynamique, Monseigneur Bodio, a dit avoir satisfait à toutes les demandes formulées par Monseigneur Bodio.
Oui. Oui, parce qu'entre-temps aussi, au Bénin, c'était dire que sa santé s'est un peu dégradée. Et donc, il y a une demande donc, de somme. Hein, si vous prenez donc le journal, vous aurez quand même le montant qui a été aussi envoyé. Mais sauf que c'est là où le problème se pose un peu, parce que après donc l'envoi de la somme, selon nos informations, son assistant a attendu pendant 10 jours avant de faire venir donc un infirmier de Lomé, l'infirmier qui avait l'habitude donc de soigner Monseigneur Kodjo. Et donc c'est suite à cela et du fait donc de la somme envoyée, ils se sont dit d'accord, est-ce que tu peux nous faire le point donc des dépenses et tout ça. Et c'est là où ça devient problème, parce que il estimait que il devait pas lui demander de faire donc la reddition de compte, sinon d'observer cette transparence là. C'est là où ça devient un peu.
Merci. C'est l'information que nous donne la manchette aujourd'hui. Quand cette vidéo circulait, nous avons débattu du sujet ici et nous avions interpellé la famille biologique de Monseigneur Kodjo. Nous avions interpellé sa famille politique, la dynamique Monseigneur Kodjo. Nous avons interpellé sa famille religieuse, l'Église catholique. Nous avons même interpellé les plus hautes autorités, parce que nous ne voyons pas Monseigneur Kodjo traîner dehors, encore moins mourir à l'extérieur. Et maintenant, la manchette, ton journal nous donne la vérité sur certains faits, mais le problème demeure, est-ce que nous tous Togolais, autant que nous sommes, est-ce que nous ne pouvons pas nous employer pour que Monseigneur Kodjo vienne terminer ses jours ici au Togo, à Bassissaka.
Ce serait l'idéal d'ailleurs.
Oui, c'est l'idéal, parce que tout le monde prie que Monseigneur Kodjo revienne chez lui. Par rapport à cette là qu'on lui fait subir, il quitte son pays d'asile, il vient rester au Bénin des mois, il quitte, on l'amène encore, on lui trimballe n'importe quoi, au Burkina, tout ça.
Donc on l'a fait venir par deux fois, six mois d'abord, 7 mois ensuite au Bénin. Ensuite, 11 mois au Burkina. Qu'est-ce qui l'empêchait vraiment qu'on l'amène chez lui?
Il a sa maison à Madaromi. Tranquille, il reste là-bas.
Avec les bonnes soeurs là-bas.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Je pense que son assistant...
Non, ne jugeons pas.
Je pense que son assistant est en train de l'utiliser comme ça. Parce que ce n'est pas normal qu'on nous dise, qu'on prenne même... J'ai écouté encore une autre... Monseigneur Kodjo a dit que lui ne reviendra jamais au pays tant que force sera toujours au pouvoir. Oui. Ça aussi qu'il lui dit.
Cette vidéo aussi a circulé.
Ça a circulé. Donc il faut faire attention. 94 ans. Et on le trimballe. Alors que c'est un homme de Dieu. Vous avez vu que quand les premières vidéos sont sorties et qu'on a interpellé l'Église catholique, ils ont réagi.
Oui. Monseigneur Barriga a sorti une circulaire invitant toutes les paroisses à prier pour Monseigneur Kodjo et tous les aînés prêtez-moi le terme, quand ils sont en retraite là.
Et archevêque émérite.
Archevêque émérite.
Et à prier pour lui. Vous savez comment ça se passe? Aujourd'hui, le journal Manchette donne la vraie version de ce qui s'est passé là-bas, avec comment on fait souffrir Monseigneur Kodjo dans son exil, alors que c'est quelqu'un à son âge devrait être tranquille quelque part
chez lui à la maison. Merci. Bonne chance vraiment à toutes les bonnes volontés dans cette affaire. Mais revenons à une préoccupation dans nos rues. Et comment nous nous comportons dans les rues? C'est vrai que nos routes ne sont pas toujours bonnes, mais est-ce que nous-mêmes nous nous comportons bien? Alors, pour arrêter l'hémorragie des accidents de circulation, le Mania Libéré nous invite à une chose au moins que nous pouvons faire, c'est limiter les vitesses. Abbas.
Ouais, limiter les vitesses. Et puis c'est le ministre des Transports, M. Acha Diji, qui était sorti la dernière fois lors de la journée de la sécurité routière, qui a constaté que surtout les excès de vitesse font des morts.
Oui.
C'est l'une des principales
causes.
Des morts et des blessés.
Traumatismes, beaucoup de dépenses.
Donc ça fait que il a dit désormais, lui et son collègue du ministère de la Sécurité, Majuba Kalisra, vont prendre un arrêté.
Ils vont prendre ou bien ils ont déjà pris?
Ils n'ont pas encore pris.
Parce que nos ministres, ils annoncent beaucoup de choses qu'ils ne font pas.
C'est la politique de l'année.
Non, tu te rappelles, ils ont annoncé contrôler le permis A pour les motos. Ils ont annoncé qu'ils vont contrôler l'alcoolémie pour savoir si on ne prend pas le guidon ou le volant en état d'ébriété. Ça ne se fait pas. Alors cette fois-ci...
Ils l'ont fait entre-temps. l'Alcotest.
Non, ils avaient fait des effets d'annonce.
Mais même à la peau de l'agent, mais on se demande qui doit faire à côté de ça.
Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'ils ont annoncé qu'ils vont s'y prendre pour limiter concrètement les vitesses?
Ils disent qu'ils vont prendre un arrêté.
C'est l'arrêté qui va limiter la vitesse.
Et maintenant, peut-être dans l'arrêté, il y aura des mesures qui seront prises.
Des dispositions.
Des dispositions qui sont prises pour qu'on puisse veiller à ça. Donc, on croit que Lomé s'arrête, le Togo s'arrête seulement à Lomé ici, parce que quand vous prenez l'ensemble du pays et les mesures qui sont prises par rapport au port de casque, lorsque vous allez à l'intérieur du pays, ce n'est pas respecté. C'est seulement Lomé seulement qui est couvert.
À l'intérieur, même, c'est loin, à Palimé, ici. À Palimé. Ici, à Tchévier, ici.
Donc,
on se dit que
comment se fait-il que le gouvernement prend des mesures pour protéger la population et que ce n'est pas suivi de fait.
Et que certaines parties pays se montrent rebelles.
Et
que l'autorité de l'État ne fait rien.
Ne fait rien. Donc, il faudrait que lorsqu'on prenne cette décision, et entre-temps, nous sommes posés la question de savoir où se retrouve maintenant le radar dont on avait annoncé également. Ces radars-là qui devaient vérifier l'excès de vitesse et. On a mis un semblant.
Toi, tu as dit, attendons l'arrêté, peut-être on va voir les radars.
On a mis un semblant de radar qu'on avait mis sur la route de Kassala.
Mais ce que dit Abbas, nous ne nous rendons pas compte, mais nous fabriquons un pays à plusieurs vitesses. Le gouvernement prend une décision d'exiger le port du casque. Les gens, enfin, on contrôle ça dans une partie, ailleurs non. Il est interdit de circuler avec des engins sans moto. Oui. Mais quand vous allez au nord, par exemple, c'est un sport national. Oui. Alors, nous prenons le risque de fabriquer un Togo à plusieurs visages.
Oui, malheureusement. Vous avez vu quand cette décision, au temps de Covid, la période covidale, donc il était dit qu'on devait arrêter pour un temps donc le Zemijan. Oui. Vous avez vu que tout de suite la révolte a commencé à l'intérieur du pays, notamment au niveau de Kara, où les gens se sont tout de suite rebellés parce que c'est vrai, il faut le dire, il n'y a pas assez de boulot. C'est là où les gens se cherchent.
Mais c'est seulement Kara qui n'y a pas assez de boulot.
Mais on a vu que la révolte est partie de là, et puis Lomé aussi.
Et le gouvernement avait reculé.
Et le gouvernement a reculé. Voyez-vous, maintenant, le port de casse, vous allez, on était encore il y a une semaine à Palimé, c'est rare de voir quelqu'un avec un casque. C'est-à-dire que c'est rare. À Lomé, c'est ça, la méthode, ça a pris. La méthode nous a pris aujourd'hui. Le porteur a le casque, le passager a le casque. Mais vous allez à Palimé, c'est-à-dire que c'est l'exception qui est la norme là, quoi. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un qui porte son casque, donc ça veut dire que vous êtes chanceux. Vous, également, car c'est vrai que c'était en porte, mais bon, il n'y a pas cette pression qu'on voit à Lomé. Mais devant peut-être des agents aussi, eux aussi ne disent rien. Donc c'est cela, c'est comme si la décision est prise et que c'est Lomé seulement qui subit. Vous sortez un peu de Lomé, c'est fini, basta. Comme si ceux qui sont à l'intérieur, eux, après l'accident, parce qu'ils sont à l'intérieur, ils ne mourront pas.
C'est un no-man's land.
Vous voyez, donc à un moment donné, quand on prend une décision, il faudrait que ça soit d'application nationale, puisque c'est un ministre de la République et un ministre national qui a pris la décision. Donc à un moment donné, il faudrait véritablement que cela puisse se faire, pour qu'on ne soit pas, on ne donne pas l'impression que c'est au niveau de Lomé où nous sommes soumis et dociles.
Merci, il est 11h50. Nous allons aborder un sujet pas moins délicat. Il s'agit du sort des ressources nationales et des deniers publics.
Oui.
Revue de presse avec Focus Info qui écrit aujourd'hui « Qui contrôle les ressources minières ?» Et l'article dit que la participation de l'industrie extractive aux recettes totales de l'État tourne autour de 2%. Toutes nos industries extractives que nous voyons là, leur participation bio de l'État, c'est à peine à 2%, et leur contribution au produit intérieur brut est d'environ 3,7%. Les économistes nous diront si c'est normal.
C'est pas normal.
Je continue avec le journal Dounia Le Monde qui nous parle de corruption au Togo. Plusieurs personnalités prises dans la NAS de la APLUSIA, la haute autorité de prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Donc, plusieurs personnalités prises dans la NAS de la APLUSIA. Et ce n'est pas fini. La Dépêche, lui aussi, écrit que 88 plaintes et dénonciations ont été enregistrées par la APLUSIA. Et je termine par la manchette qui écrit « Détournement de fonds au Togo, des personnalités ont remboursé ». Et après, je commence par toi parce que c'est toi au studio. Donc, des personnalités convaincues de détournement ont remboursé, n'est-ce pas?
Oui.
Et après?
Et après? Oui, justement parce que, vous savez, c'est vrai. C'est
d'abord,
vrai.
Ils ont remboursé auprès de qui?
Auprès de qui? Et qui sont-ils?
Oui, donc, vous savez. C'est moi qui te pose la question.
Oui, justement. Parce que c'est en fait, c'est au cours donc, d'une conférence de bas que le président donc, de l'ARPUCIA a laissé entendre cela, que oui, il y a eu 88 plaintes, que des personnalités reconnues comme avoir détourné donc des fonds donc ont remboursé. Alors nous sommes dit
les personnalités ont remboursé auprès de lui
il y a plus de précision. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui qu'il faudrait qu'il y ait des précisions. D'abord, qui sont-ils et combien ils ont pris donc dans les caisses de l'État et combien ils ont remboursé. Maintenant ils ont remboursé et puis basta, c'est fini. Parce que on est dans une république. Oui, j'ai volé 2000 francs, m'a arrêté. Prenez votre 2000 francs et puis c'est fini, quoi. La vie continue. Non. Vous savez, en matière de gestion d'un État et surtout d'une république, j'ai souvent l'habitude de dire qu'il ne devait pas avoir de place au sentimentalisme. Celui qui a osé et qui a pris les ressources de l'État, c'est-à-dire qu'il a mis par devant lui les fonds de l'État. Et la personne là, oui, bon, il a été, on l'a reconnu, bon, peut-être qu'il a dit oui, j'ai pris.
Ou bien ils ont remboursé avec intérêt, peut-être qu'ils avaient fait.
Oui, c'est trop facile parce que, vous savez, je peux, oui, parce que j'ai besoin de l'argent, j'ai pris peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, peut-être que j'ai pris 50 millions donc de l'État et que je peux aller mettre quelque part pour générer des intérêts. Et après on me demande de rembourser, je dis bon, prenez votre 50 millions, moi j'ai déjà les intérêts là-dessus. Voyez-vous? Et donc, ces personnes-là, on les laisse dans la nature comme ça, on dit non, oui, ils ont pris. Et même le chef de l'État, je reviens quand même sur ce discours-là courageux du chef de l'État du 26 avril 2012, qui disait que, en fait, que c'est un petit nombre qui accapare donc les ressources nationales et que cela crée, c'est-à-dire la continuité de la France, il dit que cela crée un déséquilibre profond qui nuit à la paix et le progrès.
Parole du président de la
République. Parole du président de la République. Son Excellence Faure Sozina Yassingbé. Bon, il y a certains qui disent cordiaux, on laisse ça. Parce qu'il est un lundi, c'est ça, non? Alors, donc voilà, il faudrait véritablement qu'on puisse sévir, parce que des gens qui prennent, puis on dit, ils remboursent, d'abord, qui sont-ils? Pourquoi ils ont pris? Est-ce que c'est leur compte personnel? Vous êtes là, vous êtes un commis de l'État, et vous vous permettez donc le luxe, je ne sais pas si c'est un luxe, de prendre l'argent de l'État. On vous demande, vous remboursez, basta, vous continuez encore à exercer là où vous êtes, ou à continuer donc à être le président ou à gérer le poste là. Mais c'est trop facile. Donc, il faudrait qu'on puisse renforcer d'ailleurs les prérogatives de l'ARPUCIA, que l'ARPUCIA ait des moyens coercitifs, véritablement pour que, au moins la corruption, c'est que la tolérance, c'est-à-dire corruption zéro, on ne peut pas arriver à cela, mais il faudrait véritablement qu'on puisse sévir. Si on prend une personne, deux, trois, le reste sera droit dans le bateau.
Merci Abbas Issaka. Ton journal aussi, Le Mania Libéré, nous en parle. 88 plaintes et dénonciations enregistrées depuis 2018. Des fonds détournés, remboursés par des personnalités impliquées. Alors, si des gens ont remboursé, c'est que sûrement il y en a qui n'ont pas encore remboursé.
Oui,
elles attendent quoi là, ces personnalités?
C'est certaines personnes qui ont remboursé.
Et les autres?
Et les autres, on ne sait pas comment ça va se
passer. Et justement, pour ceux qui n'ont pas encore remboursé, la RAPUCIA leur dit quoi?
La RAPUCIA même a dit qu'elle n'a même pas de pouvoir. Elle n'a pas de pouvoir pour réagir. Le président a soulevé même certaines insuffisances. La non-adoption de la prévention, de la stratégie de la prévention contre les infractions. Là. Que la faiblesse même de son institution, le manque de moyens pour faire des investigations. Le président de l'APRI a soulevé ça. Mais le problème, ce qui se pose, c'est qu'on a dit, on a déposé des dossiers, des plaintes qui ont été déposées. Qu'est-ce que fait le procureur de la République?
Oui. Notamment sur l'emblématique route Lomé-Bogan-Ouvouin, cette route que nous avons dû financer trois fois en cinq ans. Et l'APRI a également travaillé sur les participations du Togo au phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, je crois, 2013-2015.
Il y a déjà un rapport, même là-dessus. Des noms ont été cités.
Et ça dort auprès du procureur de la République.
Et ça a même circulé sur les réseaux sociaux.
Oui. On parle de 88 dossiers maintenant, de 2018 à nos jours. 88 dossiers, plaintes qui sont là,
et le procureur ne dit rien. Alors que la Haplicha n'a même pas de pouvoir pour agir.
Bon, peut-être qu'on va transférer ce dossier-là à la maison de justice, peut-être.
Il y aura juste conciliation.
Il y aura juste conciliation. Le devoir de gagner de l'argent.
La satisfaction de toutes les parties.
Donc le procureur de la République devait agir par rapport à cette plainte.
Merci. Il nous reste 4 minutes. Je voudrais quand même qu'on aborde rapidement 2 articles, notamment Abbas Issaka et ton journal. Le Mania Libéré, tu reviens sur, enfin, ton journal revient sur le dernier sommet de la CEDEAO qui conforte Faure Gnassingbé dans son rôle de médiateur, facilitateur, avec à ses côtés ses homologues de la Sierra Leone
et
du Bénin pour entamer les négociations entre la CEDEAO et le Niger.
Oui, déjà, on sait que Faure Gnassingbé était impliqué dans cette médiation, dans ce dialogue entre la CEDEAO et le Niger. Aujourd'hui, après le sommet de à Abuja, il a été enjoint deux autres présidents, le président Talon. J'ai vu quelqu'un parler du dur, du doux et de gentil, que les trois qui vont faire la conciliation,
le
faire
Togo, le Bénin, le Togo, et la Sierra, le Bénin,
la Sierra Leone. Donc ils vont se mettre ensemble, amener la CEDEAO par rapport aux sanctions qui sont imposées au Niger, pour que ces sanctions-là puissent aussi être levées, parce que ces sanctions imposées agissent même sur l'ensemble des pays de la sous-région. Quand vous prenez comment les choses se passent entre le Bénin et le Niger, la frontière qui est fermée, et que les camions, les gros camions qui transportent les marchandises en direction du Niger sont obligés de repasser par le Togo, prendre le Togo, aller au Burkina avant d'aller au Niger. Vous voyez comment ça...
Pour un trajet beaucoup plus long.
Pour un trajet beaucoup plus long. Donc il faudrait que les négociations, que la suspension des sanctions soient faites.
Merci. Bonne chance à cette troïka de la CEDEAO. On va terminer avec toi, Sylvestre Béni. Tu connais le REFAM, n'est-ce pas?
Oui.
Le regroupement des femmes.
Le réseau des femmes anciennes ministres et parlementaires.
Maintenant, est-ce que le REFAM va avoir son homologue masculin?
Oui, bon, est-ce que c'est son homologue masculin? Mais sauf que nous y étions d'abord le matin, c'est la... L'ANAP, qui est l'association des anciens parlementaires donc du Togo, qui a été créée, puisque les travaux continuent. Hein, d'ici 14 heures, ils vont finir avec
l'installation. Donc, ils sont en train de se créer. Et
là où ils sont en train donc, de se créer, ils sont donc au niveau de l'hôtel Mugette. Donc, actuellement, ils sont sur les tests, l'adoption des tests d'ici 14 heures. Ils auront donc le bureau exécutif donc, de cette association. Et donc, des anciens parlementaires. Moi, ça m'a permis de revoir quelques noms, quelques anciens, comme l'ancien ministre Agbo, qui était là ce matin.
Il est toujours là.
Il est là encore en pleine forme. Je crois que c'est l'ancien ambassadeur du Togo en Chine aussi.
En Chine.
Oui. Il est là. Il y a aussi un certain Agbedanou, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est de taille courte. Je crois que c'est aussi un ancien député, au temps donc du général Yassine Yadema. Bon, il y a beaucoup quand même qui se sont retrouvés, heureux donc de se retrouver de la première à la cinquième législature. Ils ont aussi invité donc les députés actuels, ceux de la sixième législature, mais je n'ai vu aucun ce matin. Peut-être qu'il ne veut pas venir et le sort fera que il deviendra ancien parlementaire.
Voilà. Les anciens députés qui sont en train de créer leur association, et ton article dit que il y a aussi bien les membres de l'ancien Haut Conseil de la République, le Parlement transitoire, que des députés depuis l'élection législative de 80...
de 92 à 2018.
Merci beaucoup. Nous verrons bien.
Il y a aussi le prince Dijolé qui est là.
Maintenant, il est le chef.
Il était prince. Oui, à l'époque, quand il était, je crois, député, il était prince.
Oui.
Maintenant, il est le chef. Oui. Mais lui aussi, il était
là comme ancien député.
Ancien député, oui.
Merci beaucoup. C'est avec beaucoup de curiosité et d'intérêt que nous découvririons cette association qui regroupe les anciens parlementaires. C'est comme les personnes ressources. Ils ont de l'expérience à revendre. Et pourquoi pas, un de ces jours-là, nous aurons l'honneur de les avoir au Club de la Presse. Il est 12h. Nous avons beaucoup parlé aujourd'hui des 25 ans de la mort criminelle de Norbert Zongo. Nous avons exprimé notre confraternité à l'endroit de tous les journalistes morts au front ou bien contraints à l'exil ou qui connaissent des difficultés ici et là.
Nous avons parlé de la maison de justice d'Aguenyévé avec son conciliateur, médiateur et son assistant à nos côtés. On a parlé de santé et on a parlé de ces sujets sociopolitiques, sujets sur lesquels nous attendons votre retour, juste le temps que vous écoutiez ce clin d'œil de Canal FM à nos partenaires.
93.5 Canal FM.
Chers et fidèles auditeurs, c'est à présent votre tour de co-animer avec nous. Vous composez le 22 21 33 74, le 91 36 63 75. Nous vous prions juste de vous en tenir au sujet débattu aujourd'hui. Premier auditeur, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Sas.
C'est monsieur.
Je salue le plateau.
Oui, c'est monsieur.
C'est à l'Oignon.
Ok, monsieur à l'Oignon.
J'interviens par rapport au port du casque.
Ok.
Bien, les agents de sécurité dans le ZIO sont régulés sur le port de casque.
Dans le ZIO?
Oui.
Ok.
Moi, mon village se situe à 13 km de Tchévié.
C'est quel village?
À Tchévié.
À Tchévié?
Oui.
Oui.
Il y a deux agents de sécurité et ils ne bloquent pas avec le port du casque chez nous ici.
Mm-hmm. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Juste rappeler que quand nous portons le casque, c'est pas pour les policiers, hein, mais c'est pour nous protéger nous-mêmes en cas d'accident. Merci monsieur Alognon pour ce témoignage depuis Ativeme, canton de Bolou, préfecture de Zio. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, allô, bonjour monsieur Sass.
Oui, c'est monsieur.
Alors, j'appelle des Daliers également dans la préfecture de Zio comme l'auditeur précédent.
Oui.
D'accord, justement, je veux aborder le sujet de Monseigneur Bodron.
Mm-hmm.
Il nous a été communiqué quelque temps par l'entremise du ministre Gilbert Barra que M. Bodron n'est pas accusé de quelque chef d'accusation que ce soit.
Voilà.
Et donc, si aujourd'hui on nous fait croire que Monseigneur Bodron est en cavale ou est en exil et qu'on cherche par là à détruire l'image du pays, je pense que ce n'est pas une bonne chose.
Mm-hmm.
Il faut que la dynamique Monseigneur Bodron puisse faire le nécessaire et faire revenir Monseigneur Bodron au pays.
Merci.
Parce que c'est de bonne guerre et c'est pour l'image de notre pays.
Monseigneur Bodron, c'est pratiquement un patrimoine national. Nous tous, nous sommes invités à nous investir pour qu'il revienne au pays et terminer ses jours sur la terre de nos aïeux. Troisième auditeur, bonjour.
Bonjour mon directeur.
Ah, Papa Sibidi.
Bonjour tout le plateau.
Tout le monde vous salue.
Hein?
Tout le monde vous salue.
Merci beaucoup. Si vous ne m'entendez pas, c'est la ligne. Hein?
Non, nous vous attendons.
Je vous remercie pour avoir posé le problème de notre grand patron, Monseigneur Kodjuro.
Mm-hmm.
Vraiment, la dynamique Kodjuro, là, je ne vois pas ce qu'elle fait. Elle n'a qu'à laisser la politique de côté et faire revenir notre patriarche. Bon, il s'est lancé dans la politique. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est normalement, celui-là, s'il décède, on ne le souhaite pas. Le président de la République lui réservera des honneurs grandioses.
Mm-hmm.
Mais aujourd'hui, là où il est-ce qu'il peut le faire? Mais Monseigneur, la DEMCA, j'accuse la DEMCA. J'accuse les gens de...
Papa Sibiti, vous n'êtes pas procureur de la République. Mm-hmm. Papa
Sibiti. Non. Attendez, laissez-moi. Ce n'est pas que je les juge. Je ne les juge pas. Parce que un digne fils comme ça dehors, est-ce que pour que, qu'est-ce que les apostos font pour le ramener? Qu'est-ce que ses parents, sa famille font pour la DEMCA? C'est à cause de la DEMCA qu'il est parti. S'ils ne font pas tout pour le ramener, Dieu va les maudire. Merci beaucoup.
Bon, ça je n'ai pas entendu, mais je rappelle que Monseigneur Kodjuro a pris un engagement politique en son nom personnel. Mais encore une fois, toutes ces familles biologiques, politiques, religieuses et autres, ce serait très bien que chacun s'emploie pour son retour décent au pays. Le suivant, bonjour. Allô?
Bonjour.
Oui, c'est monsieur?
Basile.
Allô?
Allô? Basile.
Ok, allez-y, Basile. Diminuez un peu le volume de votre poste récepteur là-bas.
Oui, j'arrive.
Ok, allez-y.
Ah, j'ai même oublié ce sur quoi je devais intervenir, mais c'est pour vous dire que vous parliez de notre...
Diminuer le volume de votre poste pour que nous puissions bien vous recevoir.
Oui, je vais encore diminuer plus.
Ok.
Allô?
Oui, allez-y.
Ça peut aller?
Allez-y, allez-y, monsieur Bazin.
Oui, mais c'est du gouvernement, moi je veux parler.
Allez-y.
Vous vous indignez tout à l'heure que... ils ont dit quelque chose. Il n'y a pas quelque chose que le gouvernement ne peut pas vouloir imposer aux Togolais. Il sait que, en face, il n'existe plus quelque chose. C'est tout ce que moi je suis venu pour vous signifier seulement.
Okay.
Il n'y a pas quelque chose que ce gouvernement ne va pas dire. Il sait qu'il n'y aura personne qui va parler. C'est tout. Merci.
En tout cas, nous parlons ici au Club de la Presse et dans tous les médias. Le suivant, bonjour.
C'est le suivant. Merci. Et que fait la papauté? Monsieur Monseigneur Codro est prêtre, un grand prêtre. Qu'est-ce que Rome dit, ma? Est-ce que Rome seul ne peut pas se lever pour venir demander pardon et ramener le Monseigneur Codro? Ça m'énerve.
Ne vous énervez pas. Faites attention à votre grand âge, papa Sibiti. Hein? Faites attention à votre grand âge. Hein? Faisons toujours l'effort de maîtriser nos émotions. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Sass.
Oui.
C'est monsieur Ourou.
Monsieur Ourou.
Oui.
Ok, vous voulez diminuer un peu le volume de votre poste récepteur pour que nous puissions bien vous recevoir.
Oui, ok.
Ok,
ça va aller.
Ok, ça va. Ok.
Bonjour, le plateau.
Bonjour à vous.
Oui, moi, j'aimerais aborder le sujet de notre coup de compte.
La A plus A peut-être.
La A plus A.
Oui.
Pour ne pas mentir, moi je vois que c'est la responsabilité de notre pays à ne pas vouloir accepter faire les choses dans le nom. Parce que comment se fait-il qu'un individu doit détourner l'aide de lui public et il ne serait pas poursuivi ni condamné.
Mm-hmm.
Ça veut dire que ce qu'il a détourné n'est pas destiné à la population. N'est pas destiné pour faire quelque chose d'important. Si en réalité, une somme a été débloquée pour un projet, un seul individu l'a détourné, et voilà que l'opinion vient de le découvrir, qu'est-ce qu'on va faire avec la personne? Il faut que cette personne soit poursuivie et soit punie.
Par la justice. Voilà, par la justice.
Et voilà que si ça ne se fait pas, les autres vont continuer par le faire.
Merci, monsieur. C'est pourquoi nous en parlons, pour nous interpeller individuellement et collectivement. Merci. Le suivant, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Comme l'an Johannes.
Allez-y.
Bon, avant tout, moi je me dis, le Monseigneur Podjuro, en âme et conscience, avant tout, s'est engagé pour un combat. Et je me dis que tant qu'il ne verra pas le résultat de ce combat, mais il peut décider de ne pas revenir au pays. Il peut y avoir manipulation à certains niveaux. Et vu comment les choses se passent, c'est clair qu'il y a de la manipulation à un niveau que ce soit. Mais j'aimerais qu'on garde quand même à l'idée que ce vieux, malgré son âge, s'est quand même engagé pour un combat. Nous qui sommes dans le pays, que faisons-nous pour que les choses changent réellement? Et que ce soit ce vieux qui soit obligé de se retrouver en exil. Il est vrai qu'il peut se retrouver dans ce pays paisiblement. Mais il s'est engagé pour un combat pour le bien de nous tous.
Mm-hmm.
Moi, deuxième point, les journalistes en exil, les journalistes en prison, ça ne me rappelle que vos deux confrères qui sont dernièrement sortis de prison. Et je me dis, jusqu'alors, le point sur lequel ces journalistes ont été emprisonnés, c'est-à-dire le montant, n'est toujours pas connu. Et je me dis que ça devrait être une exigence de votre part, que ce montant soit connu. Vous ne devrez pas vous contenter de dire que vous souhaitez que ce montant soit divulgué. Ça devait être une exigence, parce que c'est le point sur lequel ils ont été emprisonnés. Pour revenir à votre invité, bon, j'aimerais quand même savoir quelle différence il y a entre maison de justice et la cour d'arbitrage. Parce que ce qu'ils ont détaillé, ça ressemble plus à de l'arbitrage qu'on connaît habituellement.
Mm-hmm.
Quelle est la nuance entre l'arbitrage et les maisons de justice?
Merci beaucoup.
Et pour finir...
Non, finissez rapidement, il y a d'autres aussi qui attendent.
Il n'y a pas de souci. Les décisions de l'État concernent pour limiter les accidents. Moi, je le dis toujours, regardez, analysez bien les décisions qui sont prises, les points sur lesquels les agents interviennent le plus. Moi, je dis que ce sont des décisions pour pouvoir rapporter plus de sous dans les commissariats. Pourquoi je le dis? Il y a après une décision dans ce pays, comme quoi les gros camions d'une heure à une heure ne doivent plus circuler. Les gens se lèvent le matin à 7 heures, ils disputent la route avec les gros camions. Le soir, vous revenez du boulot, vous disputez les embouteillages avec les gros camions, de gauche à droite. Cette décision n'a jamais été respectée. Mais on se focalise tout le temps, tous les agents que vous allez voir dans ce pays, c'est juste pour se focaliser sur les motocyclistes qui n'ont pas porté de casque, Est-ce que c'est comme ça qu'on peut limiter les taux d'accident?
Merci beaucoup, merci, Johannes. Nous passons au suivant. Bonjour. Allô, l'ami en ligne.
Oui, Basile revient.
Ok, bon retour. Allez-y.
Basile revient.
Allez-y, Basile.
Oui. Moi, je devais parler de Aplicia qui dit que les gens remboursent. Mais c'est pour se débarrasser des zones. Allô?
Oui, allez-y, nous écoutons.
Oui, c'est pour me débarrasser. Et on lui a dit qu'il faut leur dire que les gens qui ont volé là, ils sont en train de rembourser. Mmh. Tout comme si quelqu'un a volé, on ne doit pas le mettre en prison.
Mmh.
Quelqu'un qui a volé, on va dire qu'il est en train de rembourser. Mais ils savent que quand ils vont dire ça comme ça, personne ne va rien dire. Comment est-ce qu'on peut être comme ça? Pour moi, c'est exposé. Moi, je ne veux pas être dans cette polémique, mais ce qui est sûr, tout ce que vous voulez, si ce patriarche fait comme ça, il sait que, tout on sait comment les choses se passent chez nous. Bon, lui, il a pris une autre voie. On ne peut pas le condamner. Hein. Merci.
Merci beaucoup. Recevoir le tout dernier auditeur. Oui, bonjour l'ami.
Bonjour,
Nicolas. Oh. Ok. Quoi?
Côté Benoît, bon, on a plus d'eau.
Au revoir.
Après, il y a un yam diablo.
Et à pour nous pour le téléphone à Menemia, Seigneur. Ah oui, eh bien, revenons ici à remercier encore les auditeurs qui ont abordé divers sujets. Monsieur le conciliateur, médiateur, un auditeur voudrait savoir la différence entre la maison de justice et la cour d'arbitrage.
Oui. La différence, c'est que d'abord, ça, c'est une cour. Là, c'est la cour d'arbitrage.
Mmh.
Ici, c'est une maison de justice. Ce qu'on fait, c'est une médiation, conciliation entre les populations locales.
Mmh.
Donc, nous ne rendons pas de décision. Donc, oui. Voilà la différence. Ici, c'est une médiation entre les populations, les parties elles-mêmes.
Mmh.
Donc, ce n'est pas une cour. La maison de justice n'est pas une cour.
Disons, si je peux me permettre, que la cour d'arbitrage participe encore au système classique de justice.
Justement.
Et rend des décisions.
Alors que à la maison de justice, ce n'est pas des décisions, c'est des médiations.
Oui.
Oui.
Alors, un complément, hein, monsieur l'assistant.
Oui, effectivement, c'est ce que le médiateur vient de dire. C'est l'arbitrage. C'est un mode, effectivement, de règlement de litige. Mais quand vous prenez la cour d'arbitrage, c'est une institution juridictionnelle.
Mm-hmm.
Par contre, la maison de justice n'est pas une institution juridictionnelle. Donc, au niveau de la cour d'arbitrage, vous voyez qu'il y a une sentence arbitrale. La décision qui est rendue là-bas s'appelle sentence arbitral.
Mm-hmm.
Donc, or, au niveau de la maison de justice, il n'y a pas de sentence à rendre. Donc, c'est les parties elles-mêmes qui décident de s'accorder. Et ce accord-là est consigné dans un procès verbal qu'ils signent elles-mêmes.
Merci. Donc, c'est ce qui se passe. Je reviens à vous pour votre conclusion. Le temps de recueillir les impressions de fin d'émission des confrères. Sylvestre Béni, une minute.
Non, en fait, je voulais un peu revenir sur la Russie et inviter quand même les gouvernants d'abord à donner plus de crédibilité à cette institution. Lorsqu'il s'est agi donc de faire la déclaration des biais, le président de la Russie est le premier à se rendre devant le médiateur de la République pour faire cet exercice-là. Mm-hmm. Après, on a annoncé les membres du gouvernement qui devaient passer le même jour jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas si les membres du gouvernement ont déclaré aussi leurs biens. Or, si ça part déjà de là et qu'on sait que les autorités, ceux qui nous gouvernent, ont déjà à cœur donc de lutter contre la corruption, ils ont déclaré leurs biens, il y aura déjà cette émulation, cette effervescence au niveau de la population, également donc de faire corps avec la lutte contre la corruption. Mais si on fait comme, bon, vous allez, nous sommes les maîtres, je crois que ça ne passera pas. Donc, à un moment donné, il faut revoir donc la Russie, lui donner tous les moyens possibles, jusqu'aux moyens coercitifs. Et donc, je crois que ça
c'est
va.
C'est important. Prendre. Et pour revenir à la déclaration des biens, je rappelle, c'est une obligation constitutionnelle. Et à ce jour, nous ne savons pas si le président de la République et son gouvernement, s'ils ont déclaré leurs biens.
Voilà.
Or, un enseignant vous parlera de la pédagogie de l'exemple. Voilà. L'enseignant, il fait la leçon, il donne un exemple et puis il demande aux élèves de faire comme lui.
J'avais promis de donner un site et là, sur les auditeurs, vous pouvez faire l'expérience. Vous prenez la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Allez sur votre Google, vous tapez. Vous verrez l'actuel ministre, premier ministre en France. Vous saurez tout sur elle. Comment elle a travaillé, combien on lui a payé, vous saurez tout. Le son prédécesseur, tous les ministres qui sont enfoncés aujourd'hui en France, vous êtes au Togo, vous saurez tout sur eux. Leur parcours professionnel, combien ils ont reçu et tout. Mais ici...
Cela s'appelle la transparence.
Voilà.
Abbas Issaka ?
Ouais, moi je reviens surtout sur les mesures que le gouvernement prend pour amoindrir les cas d'accident.
Oui.
Et tous les cas de vitesse. Il y a quelqu'un qui a cité tout à l'heure le fait que des gros camions,
sortent aux heures de pointe.
Or, c'est interdit. Depuis quelque temps, c'est interdit. Ils ont une heure à laquelle ils doivent circuler pour permettre aux populations, aux citoyens d'aller, d'évacuer librement aux occupations. Mais vous allez les voir. Les matins, vous discutez même la circulation. Il y a une autre mesure qui a été prise. Quand des camions tombent en panne, il y a une heure, un certain moment, qu'il faut les enlever de la circulation.
Il faut
dégager la voie. Mais ça n'est pas respecté. À tout moment,
on peut faire même une semaine sur la voie.
Il peut faire même un mois même sur la voie. Donc, aujourd'hui, il y a certaines dispositions qu'on veut prendre pour amender ces cas d'accident. Parce que si on ne fait pas respecter un jour ce qu'on a pris, ça va finir par... Je vais donner un carton vert à...
Oui.
Ou bien il n'y a pas...
Vas-y.
Je vais donner un carton vert à certains jeunes. Togo Bike Tour,
oui,
qui a organisé une activité le week-end dernier.
Oui.
Donc il faudrait qu'on encourage, ce sont des jeunes Togolais qui sont mis, qu'on les encourage, qu'on protège ça. Mm-hmm. Et que...
Alors, c'est quoi le Togo Bike Tour?
La bicyclette, ils font du vélo.
Ils nous remettent à la bicyclette ou au vélo.
À la bicyclette ou au vélo. Donc c'est leur... leur objectif, c'est de permettre aux populations de revenir beaucoup plus au vélo.
Oui.
Donc, qu'on puisse protéger, c'est un projet. Merci. Qui doit être protégé.
Et quand nous mettons au vélo, nous luttons contre la pollution. Mais attention, pédaler le vélo dans les rues de Lomé ici,
non, c'est faire
je nous souhaite beaucoup de courage.
C'est faire du sport.
Gadiel Jonyadi.
Oui, toujours en matière de sécurité routière, oui. Vous savez, surtout dans nos quartiers périphériques, le respect du carrefour. C'est vraiment dommage parce que tout le monde veut passer en priorité au niveau des carrefours. Les carrefours, même s'il n'y a pas de panneau stop, l'éducation qu'on a reçue depuis le cours primaire, c'est que quand on arrive au carrefour, on est à vélo, à moto ou en voiture, on s'arrête, on ralentit pour voir et puis on continue. Voilà, il se passe un certain nombre de dysfonctionnement dans les quartiers, c'est vraiment dommage.
Merci, monsieur le médiateur conciliateur, maître Agbessinou Yaovi Doji, votre mot pour clôturer cette émission.
Oui, je vous remercie beaucoup. J'espère que cette émission va continuer. Vous allez nous inviter de temps en temps pour dire à la population les bienfaits de la maison
si
de justice.
Si nous tardons, rappelez-nous. Si nous tardons à vous inviter, rappelez-nous.
Oui.
Vous savez que Mahomet doit aller prier à la montagne.
Tout à fait.
Mais si la montagne attend 2-3 jours, la montagne peut rappeler à Mahomet qu'il est l'heure de la prière.
Tout à fait. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Nous serons de temps en temps ici pour dire à la population les bienfaits de la maison de justice.
Merci. Autrement. C'est fini pour aujourd'hui. Melclub La Presse.
Nous nous retrouvons demain jeudi à 11h. Je sais que vous serez au rendez-vous. Prions seulement que Dieu nous réveille demain en bonne santé et avec un minimum d'intelligence et de sagesse pour dire, pour animer cette émission sur le fond de la vérité.